la participation.
C'est ce qu'on s'est dit, il y aurait tout un écho.
Voilà, et puis normalement, bah, il y a aussi, je pense à Mélie et Yafet, s'ils viennent ce soir. Ce matin.
Je Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la croyance, afin que, par la puissance du Saint-Esprit, vous abondiez dans l'espérance. Romains 15, verset 13. En ce début d'année 2024, mes pensées vont vers vous, votre famille et vos proches. Que ce soit une année pleine d'énergie, douce et pétillante à la fois, emplie de petits et de grands bonheurs dans le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année, Exode 12, 2. Avant le premier mois, il y eut d'abord le premier jour, Genèse 1, verset 5. Et ce premier jour a été marqué par la manifestation de la lumière. Votre vie est-elle sans forme et vide? Les ténèbres, la solitude, le rejet, la maladie, la souffrance morale, la persécution, etc., ont-elles couvert votre vie tout le long de l'année écoulée? Le temps est venu de relever la tête. Réjouissez-vous et n'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde. La nouvelle année est l'occasion de remettre nos compteurs à zéro. Cette nouvelle année est comme un nouveau départ. Demandons à notre Seigneur de nous guider à travers ces 12 prochains mois. Seigneur Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie pour remettre entre tes mains cette nouvelle année. Je veux te donner plus de moi afin que tu me remplisses de toi. Je te laisse prendre le contrôle, car de moi-même, je ne peux rien faire. Je réalise désormais que si je souhaite une vie triomphante, il va falloir que j'accepte de dépendre de toi. Je prends ce moment pour te dire merci aussi pour l'année qui se termine, merci pour les prières que tu as exaucées, mais aussi pour celles devant lesquelles tu es resté silencieux. Merci également de me permettre de vivre une année supplémentaire, de me donner une nouvelle opportunité de faire mieux. Que cette année soit une année où je me rapproche encore plus de toi. Mais c'est avant tout le fait de savoir que notre Dieu ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il nous dit « Je suis avec vous tous les jours. » Alors ce matin, je peux effectivement vous dire « Bonne année 2024, dans son amour et dans sa paix. Soyez les bienvenus. » Il l'a promis. Il nous accompagne maintenant pendant ce culte et nous accompagnera jour après jour.
Chers frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir de pouvoir louer ensemble notre Seigneur, celui qui est tout puissant et si grand. C'est les deux chants que nous allons chanter, Dieu tout puissant et infiniment grand. Et oui, nous voulons vraiment lui dire merci pour qui il est. Incroyable qu'un Dieu aussi grand ait voulu se réconcilier avec nous, pauvres pécheurs, qu'il a donné son Fils pour mourir sur la croix et prendre sur lui tous nos péchés. Alors merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons te louer et t'adorer. Et j'aimerais juste lire le dernier couplet du premier chant. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit et le jour que tu es bon. Ô Dieu d'amour, nous chantons Dieu Tout-Puissant.
Heureusement que j'ai quand même quelques enfants ce matin. Alors, moi, j'ai une boîte ce matin. qu'est-ce qui est écrit sur cette boîte? Hein? Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Tu peux y aller, vas-y, la parole est à vous. 2024. Hein? On a vu que les adultes font des tas de bonnes résolutions pour 2024. Eh ben, pourquoi pas les enfants? J'ai des clés pour ouvrir ma boîte. Alors, pour ceux qui savent lire, qu'est-ce qu'il y a sur mes premières clés? Ensuite, c'est vous qui allez faire vous-même les clés. Qu'est-ce que j'ai sur cette première clé? Tu viens enfiler la première clé là-dedans? Qu'est-ce que j'ai dessus?
Obéir à ses parents.
Ouh là 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 là! Alors ça, c'est tout un programme. Voilà, allez, on enfile la clé. C'est bon, tu peux la garder. Voilà, on va enfiler une deuxième clé. Tu veux lire ce qu'il y a sur la deuxième clé?
Lire la Bible.
Ah, ça aussi, c'est tout un programme, lire la Bible. Je vous en donne encore un troisième et après, c'est vous qui allez inventer ce qu'il y a sur les clés. Tu peux déjà lire? Hein, t'arrives à lire? Prier. Voilà, ça c'est la troisième clé. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de mettre pour l'année prochaine sur ces prochaines clés? Elles sont vides. Hein, il vous en faut une ou deux pour pouvoir ouvrir ma boîte. Qu'est-ce que vous allez mettre sur ces prochaines? Qu'est-ce que vous allez prendre comme grande décision pour l'année prochaine? Hein, des choses toutes simples. Hein? Ah. Il n'est pas d'accord. Vas-y.
Être généreux.
Oh, bravo. Alors là, tu peux mettre la clé. Hein, tu la mets aussi là-dedans. Être généreux, super. Ça, c'est un très beau programme. Allez, une autre clé. Qui veut encore dire quelque chose? Noam, tu veux nous dire quelque chose aussi? Non, tu ne veux pas mettre de clé. Ah, mais alors, je ne sais pas s'il pourra ouvrir la boîte, du coup. Allez, encore une grande décision pour cette année. Hein? Encore une. Et après, on ouvre la boîte. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu as encore une idée? Hein? Essayer d'être peut-être plus obéissant? Ou plus collaborant avec les petits copains et copines. Hein, il y a des fois des soucis avec un ou l'autre. Allez, on met cette dernière clé. Tu veux la mettre? Tiens, mets la dernière clé, puis on va ouvrir la boîte. Et voilà, on va ouvrir la boîte pour 2024. Ah, ben, t'as de la chance, c'est encore du chocolat. Ça y est, voilà. Toutes nos bonnes résolutions pour l'année prochaine. Ah, il y en a même deux qui sont collés ensemble. Bah, tiens, donne à ta sœur. Voilà. Je vais ranger mes clés et vous aurez toutes vos bonnes résolutions pour l'année prochaine.
Voilà, nous allons chanter un dernier chant avant le message. Parle-nous.
Recevoir le peuple.
Je lirai dans Ésaïe 43, versets 1 à 4. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare. N'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai appelé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur pour moi et je t'aime. Donc, je donne les peuples à ta place, les êtres humains en échange de toi.
Voilà, bonjour à chacun. En ce dernier jour 2023, la motivation un peu pour ce texte, c'est un texte que j'ai relu récemment. Je me suis dit que ça serait un bon texte pour l'édito du programme. Du programme qu'on publie dans l'Église. Hein, qui, voilà. Mais c'est un texte qui m'a parlé avec une intention toute particulière il y a un certain temps, il y a un peu plus de 20 ans, en fait, quand j'ai traversé un moment difficile de ma vie. Et en cette fin d'année 2023, et pour celle 2024 qui est déjà tout bientôt là, je pense en particulier à plusieurs personnes ou familles de notre communauté qui passent par des difficultés, des épreuves extrêmement douloureuses. Alors, je crois que c'est un texte qui peut nous parler à chacun, mais j'aimerais d'abord peut-être le replacer un peu dans son contexte, à la fois du prophète Ésaïe et du temps où il a été écrit, puis ensuite méditer un peu sur ce qu'il nous dit personnellement, puis élargir à ça, parce que je pense que ça quelque chose à dire à nous en tant que communauté. Disais donc, c'est un texte, c'est vrai, qui s'adresse d'abord à un peuple, écrit par un prophète, mais dans une situation assez troublée. Le peuple d'Israël, il était gouverné par des rois, et s'était réparti en deux royaumes, le royaume du nord, le royaume du sud, avec Samarie et Juda, voilà, un petit royaume, assez minuscule face aux aléas politiques des empires qui se faisaient et qui se défaisaient dans la région. Il y avait l'Égypte, il y avait l'Assyrie et la Babylonie qui étaient des empires dont les capitales sont un peu dans l'Irak actuel. Il y avait la Perse qui a été le plus grand peut-être qui est arrivé dans cette période et qui correspond à l'Iran actuel, mais qui était beaucoup plus large. Et vers 700 et quelques avant Jésus-Christ, le royaume du sud, il a été carrément envahi et soumis aux Assyriens. Et c'est un peu la situation que le prophète Ésaïe, à laquelle s'adresse le prophète Ésaïe, dans les premiers chapitres, les chapitres 1 à 40. Et je trouve le commentaire de l'introduction de la Bible en français courant très pertinent. Le prophète proteste contre les combinaisons politiques échafaudées par les dirigeants de Jérusalem, contre les constantes violations du droit et de la justice sociale, contre les pratiques religieuses derrière lesquelles s'abritent les exploiteurs des pauvres, contre la manifestation du désir de grandeur, etc. Mais quand le danger est là, le message du prophète vient se dresser contre la panique et le découragement. Dans toutes ces circonstances, Ésaïe appelle à croire, c'est-à-dire à garder confiance dans les promesses de Dieu et dans les règles de vie qu'il a données à son peuple. la foi doit toujours se traduire par des actes, aussi bien dans le domaine social et politique que dans celui des relations personnelles. Mais quand on arrive au chapitre 40, on est dans une situation différente. C'est sans doute un autre prophète aussi dans la même lignée. On est un peu plus d'un siècle après la destruction du royaume du Nord. Et cette fois, c'est le royaume de Juda qui est conquis par les envahisseurs. Et beaucoup de Juifs sont déportés. Et là aussi, je trouve intéressant de lire un petit extrait de cette introduction dans ma Bible. Hein. Les Babyloniens ont remplacé les Assyriens comme puissance dominante dans toute la région. Donc, ils ont pris Jérusalem en 587 et déporté sa population. Enfin, pas toute la population, hein, mais beaucoup de gens ont été déportés. Et les déportés s'interrogent, est-ce qu'il se pourrait que la ruine de la ville sainte ait été une victoire des dieux babyloniens sur le dieu d'Israël? Loin du pays que le Seigneur leur avait donné, privés du temple où ils rencontraient Dieu, les exilés sont au fond du désespoir et persuadés que Dieu les a abandonnés, volontairement ou par impuissance. C'est pour ces gens découragés que le prophète parle. Dieu va utiliser le roi perse Cyrus pour délivrer son peuple, une nouvelle libération qui rappelle un peu la sortie d'Égypte. Il va permettre à ce peuple de revenir dans la terre promise. Puisque Dieu est le créateur du monde, il a le pouvoir d'annoncer de tels événements et de les réaliser. Les dieux des vainqueurs ne sont que des illusions. Alors, quelques remarques encore sur ce contexte. Hein. Ces paroles du prophète, elles émanent d'un peuple opprimé et non pas des dominateurs. C'est quelque chose que je trouve intéressant parce que c'est le contraire des textes bibliques qu'on a dans nos livres d'histoire, qui sont toujours écrits par les dominants et à la gloire des rois, des empereurs, etc. Et c'est une chose qui donne une couleur d'authenticité à la Bible extraordinaire. D'autre part, la dispersion des Juifs, c'est quelque chose qui est déjà en route à cette époque. Et c'est un peu grâce à cette situation, au final, qu'on a la Bible. Pourquoi ? Parce que le peuple juif qui se trouve désemparé, il n'a plus son temple, il ne peut plus faire ses rites, il est obligé de s'accrocher à une parole. Cette parole, la parole des prophètes, est recueillie. Et c'est ça qui est devenu ce livre unique qui est la Bible. On ne s'accroche plus à des rites, on ne peut plus. On s'accroche à cette parole. Et puis, Ésaïe, c'est le prophète qui est le plus proche du Nouveau Testament. En particulier, cette partie du livre qui commence au chapitre 40. Et il y a aussi dans cette partie des textes que vous connaissez peut-être, ce qu'on appelle les chants du serviteur, qui parlent d'un espèce de mystérieux serviteur qui, dans le contexte d'Ésaïe, c'est le peuple. Mais en même temps, ce mystérieux serviteur, c'est comme un portrait anticipé de Jésus et une préfiguration de la venue du Sauveur qui vient dans l'humilité. Par exemple, dans Acte 8, il y a Philippe qui est un chrétien qui rencontre un étranger qui est en train de lire, qui s'intéresse au judaïsme, qui est en train de lire Ésaïe. Et qui lit ce texte où il dit « Il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. » Et c'est une préfiguration de Jésus, c'est ce qu'on va rappeler à la Sainte Cène tout à l'heure. Alors voilà un peu le contexte. Maintenant je reviens sur le sens personnel de ce texte, parce que je crois que c'est tout à fait légitime de s'approprier personnellement un texte qui s'adressait à un peuple à l'origine. Parce que c'est aussi le génie de ces textes bibliques, en tout cas de tout cela, de faire résonner ensemble le collectif et le personnel, de mettre ensemble la justice sociale et l'amour du prochain, de mettre ensemble la valeur de la communauté, d'un peuple, et puis la valeur inestimable de chaque personne. Mais maintenant, dit le texte, ton Créateur, celui qui t'a formé, Israël. Dieu commence par nous rappeler, par me rappeler cette certitude que je suis créé. Ça veut dire que mon existence, elle n'est pas le résultat d'un, elle n'est pas le seul résultat d'un hasard aveugle qui débouche sur un non-sens, mais le résultat d'un projet, d'un créateur personnel. N'aie pas peur. Ça me rappelle ce que Jésus disait à ses disciples, hein, on trouve ça dans Jean 14, juste avant son arrestation. N'ayez pas peur, ayez confiance en moi. N'ayez pas peur, je t'ai libéré, je t'ai racheté. Libéré de mes manques. On a des manques et des choses qu'on n'a pas réussi à faire hein, dans cette année, je pense. En tout cas, moi. Mais cette libération, je ne suis pas enfermé dans ces manques, dans ces ratages qu'il peut y avoir. Je suis libéré. Et je t'ai appelé personnellement. Cet appel personnel de Dieu, ça veut dire qu'il y a un avenir qui est ouvert devant moi. Et tu m'appartiens. Mais c'est là notre vraie sécurité. La seule vraie sécurité, elle est dans ce qu'on appartient au Seigneur qui nous aime. Quand tu traverseras l'eau, quand tu franchiras les fleuves, quand tu passeras par le feu. Vous voyez la forme poétique peut-être dans ce texte. La poésie hébraïque... Elle n'est pas comme notre poésie française qui est basée sur des rimes. Elle est basée sur des espèces de répétitions des mêmes textes avec des autres mots. Et dans toute cette partie d'Ésaïe, c'est écrit comme ça. Et c'est intéressant parce que c'est une espèce de beauté qui nous aide, qui nous fait sentir le sens et puis qui passe même à travers la traduction. L'Évangile est promesse de vie. Et les promesses de vie et de présence de Dieu, quelles que soient les circonstances. On ne nous dit pas que rien ne nous garantit que tout ira bien. Je sais qu'il y a un cantique là dans qui dit comme ça, tout ira bien. Ce n'est pas si simple. Hein. Et on aime bien des fois, nous, s'encourager les uns les autres en disant, mais ça va aller. Dans les choses simples, oui, ça marche. Mais dans les choses plus compliquées, on n'ose pas trop dire ça. Et les épreuves arrivent, indépendamment de notre foi, et sans que nous ayons aucune prise sur ces situations. Alors, quand tu traverseras l'eau, quand tu franchiras les fleuves, qu'est-ce que ça évoque pour vous, franchir l'eau ? Je n'avais pas entendu, mais le Jourdain, oui. Mais nous, on ne traverse pas le Jourdain. C'est sûr que ça évoque le Jourdain pour le peuple juif. Moi, j'y vois un petit peu, des fois, on a le sentiment d'être submergé, on va couler. Ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression. Et ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Ça peut arriver au pasteur. On a une promesse de vie, mais pas de baguette magique. La dépression, c'est arrivé à une personne que je connais bien, qui s'appelle Jane Mayer, qui a été missionnaire. Elle et son mari, ils ont été missionnaires avec la mission Wycliffe pendant très longtemps, en Afrique, je ne sais plus quel pays. Mais elle est passée par une profonde dépression qui s'est manifestée dans leur premier temps en Afrique, où un moment donné, elle s'aperçoit qu'elle se levait le matin, préparer le petit déjeuner pour son mari et sa femme, c'était insurmontable. Elle n'y arrivait plus. Alors elle a écrit un livre où elle raconte tout son parcours, qui allie la prière, les médicaments. C'est un long chemin pour trouver un chemin là-dedans. Et elle a écrit un livre qui a un titre assez un peu provocateur, « Je prends des antidépresseurs, Dieu merci ». Il y a beaucoup de sagesse dans ce témoignage. Et je crois qu'elle est venue une fois témoigner ici. Quand tu traverseras le feu, quel feu? Je ne sais pas si ça évoque pour vous. Moi, je peux penser à la persécution. Mais nous, on n'est pas tellement persécutés. Des fois, on a le sentiment qu'on voudrait faire des choses qu'on ne nous permet pas, mais okay, c'est encore gentil à côté de ce que vivent certains chrétiens dans le monde. Mais il y a d'autres choses, il y a la maladie, d'autant plus inacceptable quand elle touche des personnes jeunes. Ou la mise en question, le rejet, l'échec, ça peut être dans le domaine professionnel ou ailleurs. Puis il ne s'agit pas seulement de rester zen, mais de s'ancrer sur quelque chose de plus profond. Car je suis ton Dieu, je suis ton Sauveur. Par la bouche du prophète, Dieu réaffirme qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Sauveur. Dans cette relation personnelle, qui est finalement le seul fondement de notre espérance quand on traverse l'épreuve. Je donne l'Égypte pour ta libération, des peuples en échange. Ça paraît un peu bizarre, hein, parce qu'évidemment on est dans cette situation du peuple, mais c'est une image pour souligner la valeur inestimable que Dieu donne à son peuple et que Dieu donne à chacun de nous. Oui, dit-il, tu es précieux, tu as de la valeur et je t'aime. Ça, c'est une parole forte, en particulier si on vit dans une situation où on a perdu l'amour d'une personne aimée. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et bien sûr, on est d'abord dans un registre collectif dans ce texte, mais finalement avec un ton très personnel qui nous rejoint chacun de nous. Puis c'est vrai que dans la Bible, il y a beaucoup de textes violents, il faut le reconnaître. Mais en même temps, il y a cette affirmation qui est très forte de la valeur que Dieu accorde à chacune de ses créatures, à chacun de nous, et que Jésus va incarner tout au long de son ministère. On voit comment Jésus met en valeur chaque personne. En particulier ceux qui sont dévalorisés dans la société. Puis c'est aussi quelque chose qui est à l'origine finalement des droits de la personne humaine, qui sont devenus quelque chose d'universel, mais qui sont ancrés dans cette valeur que Dieu donne à chacun. Alors je vous propose de faire ce pas de plus de la personne à la communauté. Pour notre vie d'église, pour notre vie de l'église de Mérin, parce que cette promesse de la présence aimante de Dieu au cœur de notre réalité, au-delà de nos fragilités, de notre finitude, on est appelé à la refléter communautairement. Et puis je crois qu'on peut être, les uns pour les autres, un canal par lequel cette présence de Dieu dans les épreuves se manifeste. Je pense à ce que disait Jésus dans l'évangile de Jean 13:35, c'est aussi peu avant son arrestation. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il me semble que cet amour, ça va plus loin que juste de la convivialité. C'est très bien d'avoir de la convivialité, hein. C'est déjà un signe de cet amour. Mais ça va plus loin. C'est une relation dans laquelle nous, on accorde aussi de la valeur à chacun. Chacun de nous accorde la valeur à chacun des autres. Particulièrement au temps de l'épreuve, ou quand les choses vont mal, ou qu'il y a de l'échec. Je pense à ce que disait Paul aux Philippiens, hein, dans le chapitre 2, que chacun considère l'autre comme supérieur. Pour moi, ça veut dire valoriser l'autre, apprendre, être prêt à apprendre de l'autre, à lui donner de la valeur. Et puis c'est aussi cette compassion qui n'est pas facile à exprimer parfois. Quand les circonstances sont graves, on ne sait pas trop quoi dire aux personnes. Et peut-être que parfois, il vaut mieux garder le silence, mais trouver des manières de montrer sa présence, son affection autrement. Et je dois dire que pour moi, c'est la compassion dans des situations difficiles, c'est quelque chose que j'ai vécu dans cette église. C'est quelque chose que j'ai vécu avec mes amis, la communauté des pasteurs laotiens en France, quand j'ai traversé l'épreuve. Et puis il se pose la question de comment prier. C'est peut-être qu'on pourra, dans le moment de partage tout à l'heure, l'évoquer. Face à la maladie, quand est-ce qu'on prie pour la guérison ? Quand est-ce qu'on prie pour que Dieu nous donne la paix, pour accepter une situation? Voilà. Ben, que Dieu nous donne la sagesse. Puis je pense que cette compassion qu'on peut avoir les uns pour les autres, c'est aussi quelque chose qui s'apprend en faisant, et puis qu'on apprend aussi quand on passe soi-même par des épreuves. Donc on est en constante formation. Alors sans doute cette manière dont on peut incarner la présence de Dieu les uns auprès des autres, c'est aussi un élément de notre témoignage, un élément essentiel de notre témoignage d'Église autour de nous et d'être une lumière autour de nous. Alors, tels sont mes vœux pour 2024, c'est que nous soyons encouragés personnellement par ces promesses de Dieu, quelles que soient les circonstances, et puis que nous puissions être les uns pour les autres et envers ceux qui nous entourent, une manifestation réelle et concrète de cette présence de Dieu.
Thank you.
On m'a demandé donc de lire les versets pour la scène, puisque la scène est préparée. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on va lire, parce qu'il y a Matthieu qui en parle, il y a Marc qui en parle, il y a Luc qui en parle, et il y a 1 Corinthiens 11, 23 qui en parle. Je me suis attelé à tous ces passages et je me suis aperçu que, effectivement, Matthieu et Marc sont à peu près la même chose. Il donna à ses disciples, donc on voit que ses disciples étaient avec lui. Et puis, il parle dans les deux cas, en Matthieu et en Marc, de l'alliance. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. » Et puis dans Marc, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens. » Donc on voit que c'est à peu près la même chose. Et en Luc et en 1 Corinthiens 11, verset 23, c'est aussi approximativement la même chose. Mais s'il est parlé dans Matthieu et dans Marc de l'alliance, là il est parlé, cette coupe est la nouvelle alliance. Et puis il est marqué dans les deux, faites ceci en mémoire de moi. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que c'était la mémoire et ce que c'était l'alliance. Et mémoire, c'est l'action de se souvenir, une réputation ou bien un souvenir que laisse une personne après sa mort. Ça veut dire que cette personne, on la connaît. On a vécu avec, on a parlé avec, on la connaît, mais elle est morte et on se souvient de cette personne. Et alliance, j'ai regardé sur le dictionnaire, pour la religion, l'alliance est une union entre Dieu et les hommes. Une union entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire, si on a une union entre Dieu et les hommes, si moi j'ai une union avec Dieu, c'est que je le connais. Je suis uni à lui. Maintenant, j'aimerais juste lire, si tu peux venir, dans 1 Corinthiens 11, verset 23. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » C'est une mémoire que l'on va prendre maintenant ensemble.
Oui, Seigneur, nous nous souvenons, nous faisons mémoire de ta vie donnée pour nous, pour que nous ayons la vie. Merci pour ton amour qui est allé jusqu'à l'extrême pour nous et que cet amour nous donne la vie et nous donne d'être capables à notre tour d'aimer et d'avoir de la compassion. Amen.
Amen. Au milieu des plateaux, il y a des petits gobelets qui sont roses, c'est du jus de raisin et autour, c'est du vin.
Si quelqu'un souhaite avoir la coupe plutôt que les petits verres, vous levez la main.
scène, je vous propose un moment libre, soit pour de la prière, soit pour des témoignages en cette fin d'année, pour remercier pour tout ce qui nous a été donné cette année. Alors je vous passerai le micro, simplement vous levez la main et puis je passe vers vous. Sentez-vous libre pour faire même des courts témoignages.
Alors, il n'y a pas longtemps que je fais partie de votre communauté. Je me suis tout de suite très bien sentie avec vous. Et en fait, je ne sais pas prier, ce que je vais apprendre avec vous. Mais je suis malade. Et jeudi dernier, j'ai dû faire une IRM d'une heure et demie, ce qui est extrêmement long. Et j'ai prié comme je pouvais avec mon être, en fait. Et j'ai demandé à Dieu de m'accompagner dans cette prise en charge, parce que j'en ai déjà fait des IRM, mais c'est vraiment... Dans ce tube, on est angoissé. Et je me suis sentie à l'hôpital comme portée, accompagnée, aucune angoisse, une chaleur à l'intérieur de moi, et j'ai vécu une heure et demie de paix dans mon tube. Donc, je vais remercier Dieu, parce que je pense qu'à ce moment-là, j'ai été accompagnée et ça m'a fait beaucoup de bien. Et il m'a écoutée. Amen.
Moi-même, donc, j'ai eu plusieurs fois des dépressions, une très très grande au début, il y a plus de 20 ans, et puis après deux petites dépressions, petites, mais c'est quand même une dépression, et c'est vrai que pour Chantal, c'était pas facile à supporter son mari qui était en dépression. Et la dernière dépression que j'ai eue, il y a quelques mois en arrière, j'ai été visité par une personne de cette communauté qui est venue chez moi avec une autre personne. Et puis, avant de partir, cette personne m'a dit « on prie ensemble ». Et puis cette personne, elle a prié, et moi j'ai aussi prié, je crois que Chantal aussi, on a tous prié, mais la prière de cette personne, il a donné une phrase qui m'a marqué. « Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. » Et cette phrase, une fois que cette personne est partie, je l'ai répétée toute la journée. « Par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. » Et le soir, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, m'a sorti de cette dépression. Amen.
Oui, Père, merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans nos cheminements. Présence forte, comme on l'a entendu, des fois plus discrète, des fois c'est un souffle. Mais Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes. Et c'est vrai, quand on peut, comme l'a dit Sylvain, quand tu échanges nos vies contre un peuple, alors Seigneur, c'est vrai que ça paraît bizarre, mais on se rend compte aussi combien on est précieux à tes yeux. Et Seigneur, j'aimerais te remettre tout particulièrement les Strubins, Seigneur, qui vivent vraiment quelque chose de lourd avec leur fils, cette maladie, Seigneur, qui prend leur fils. Et Seigneur, j'aimerais que tu les accompagnes aussi, comme on a entendu ces témoignages. Tu les accompagnes, tu leur fasses du bien, Seigneur, que tu sois présent avec Pascal et avec toute sa famille. Amen.
Seigneur, je leur parle de courage, de prière, monde. Et Dieu m'a envoyé ce matin au culte pour qu'il y ait des autres personnes que je ne pensais pas du tout qui ont passé par la dépression. Et il y a plusieurs dans cette communauté qui savent que je passe de dépression en dépression depuis 60 ans, mais tu m'as toujours aidé à m'en sortir. Et voilà, tu m'as encore dit ce matin, ne crains rien, parce que je t'aime. Alors Seigneur, merci pour ces personnes qui ont eu le courage de dire, voilà, que c'est une maladie qui est horrible, mais tu es l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien qui nous arrive sans que tu sois avec nous. J'ai une personne qui est venue chez moi, qui m'a écoutée pendant des heures. C'était avant-hier. Elle sait très bien qui c'est. Et puis je lui dis, merci Seigneur, mais bénis-la. Bénis cette communauté. Merci. Merci que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur Jésus. Amen.
Il y a un refrain d'un chant, un vieux chant. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Amen.
Moi, je voudrais dire merci au Seigneur parce que voilà, ben, pendant Noël, ben, j'ai eu le Covid et voilà, en plus, c'était mon anniversaire. Et voilà, les personnes me disaient, oh ma pauvre, ben, oh, tu passes le Noël toute seule. Et voilà, eh bien non, j'ai pu dire, non, je ne suis pas toute seule. C'était, le Seigneur était avec moi tout le long. Je ne me suis jamais sentie seule. Alors merci Seigneur, vraiment, parce que c'est des moments, dans les moments difficiles, que vraiment on voit que tu es là. Parce que quand tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est vrai, on sait qu'il est là, mais ce n'est pas la même chose. Quand on n'est vraiment pas bien, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a le Seigneur qui nous maintient. Alors merci Seigneur pour ce Covid, merci Seigneur pour ce Noël passé toute seule. Toute seule, non, ta famille, bien sûr, mais toi tu étais là. Alors je te rends grâce. Et au nom de Jésus, je t'aime, Seigneur, parce que toi, tu m'as aimé en donnant ta vie. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup.
Merci. Je voulais dire merci au Seigneur. Merci, merci, parce que j'ai passé par des moments très difficiles cette année et puis l'année précédente. Mais il y a ma femme qui a été extraordinaire et qui avait la patience avec moi et qui m'a toujours encouragé dans ces moments-là. Je ne sais pas comment je l'aurais pu le faire sans elle et sans toi, Seigneur. Alors merci encore. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Amen.
Amen. Maintenant, au niveau des annonces, je crois que Claude avait quelque chose à nous dire. Il n'y a pas beaucoup d'annonces en cette fin d'année, c'est assez calme. Donc, on vous rappelle que vous pouvez toujours prier aussi pour le camp de ski qui a lieu actuellement. Hein, qu'il soit vraiment béni, tout ce groupe.
Alors, c'est vrai que c'est un peu anticipé par rapport à 2024, mais c'est pour. Je pense qu'il y aura de nouveau une annonce comme celle-ci dimanche prochain, mais c'est pour annoncer la semaine de prière universelle du réseau évangélique Genevois. Donc, elle a lieu à partir du 15 au 19 janvier, et c'est dans différentes églises genevoises du réseau. Par exemple, l'Action biblique à la Servette, l'Église évangélique de Plainpalais, l'Église évangélique de l'Espérance, l'Église du Réveil, l'Église missionnaire. Vous voyez, il y a différentes églises. Vous trouverez des petits papillons. Donc, c'est de 19h à 21h30. Vous trouverez des petits papillons avec aussi quelques explications. Donc, vous les trouverez d'or. Donc, c'est la semaine de prière universelle du réseau évangélique Genevois.
Et puis je vous rappelle encore la fête du Nouvel An qui a lieu ici ce soir. Donc les gens se sont inscrits assez massivement, donc on sera une bonne trentaine. Et si jamais il y avait encore quelqu'un qui serait seul et qui serait seul pour ce soir, qu'il n'hésite pas à me contacter. Il sera le bienvenu, bien sûr.
Voilà, encore un chant pour demander à Dieu de nous bénir, la bénédiction sur nous et sur nos familles. The blessing.
Hey. Il faudrait une vie comme ça.